Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des élections qui se sont déroulées cette semaine. Le gouverneur sortant du New Jersey, le démocrate Phil Murphy, a été réélu de justesse mercredi avec une avance d'environ 20 000 voix sur quelque 2,4 millions de votes. La dernière fois qu'un gouverneur démocrate y a conservé son poste remontait à 1977. Cette victoire face à son challenger républicain Jack Ciattarelli permet aux démocrates de sauver la face après une défaite en Virginie qui a encore affaibli Joe Biden. En Virginie donc, le républicain Glenn Youngkin s'est imposé face à Terry McAuliffe, pourtant ancien gouverneur de 2014 à 2018 de cet État remporté largement il y a un an par Joe Biden face à Donald Trump. Les experts voient dans cette défaite de Terry McAuliffe un avertissement et un coup de sémence pour les démocrates, notamment dans la perspective des élections de mi-mandat prévues en novembre 2022. Les élections locales qui se déroulaient mardi ont aussi vu la victoire sans surprise à la mairie de New York du démocrate Eric Adams, un ancien policier qui deviendra le 1er janvier le deuxième maire noir de la mégapole économique et culturelle. À Boston, capitale de l'État du Massachusetts, la démocrate Michelle Yeoh, 36 ans et fille d'immigrés taïwanais, a également été élue maire. Enfin, à Minneapolis, Jacob Frey a pu sauver sa place de maire. Pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir, ici dans la région de Washington DC, René Lec. Il est journaliste et analyste politique. René Lec, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir John.
En Californie, nous avons Dennis Beaver, avocat à Bakersfield. Dennis, bonjour.
Bonjour, Californie.
En Californie, donc. Merci et désolé de vous avoir réveillé si tôt pour faire cette émission. À New York, nous avons Bakary Tandja. Il est militant de droit des immigrants. Bakary Tandja, bonjour.
Bonjour depuis New York.
Voilà, merci. Merci donc à tous d'être là. On n'a donc pas fermé la page des élections de cette semaine ici aux États-Unis. Première question, je vous la pose, René Lec. Les démocrates viennent de perdre le siège de gouverneur de l'État de Virginie. Qu'est-ce que cela signifie pour eux, malgré qu'il y a eu une campagne énorme? On a vu l'ancien président Barack Obama, on a vu le président Joe Biden. Ça n'a pas suffi à faire remporter Terry McAuliffe.
Oui, écoutez, John, l'une des caractéristiques de la campagne de Terry McAuliffe, c'est qu'il a nationalisé sa campagne en Virginie. C'est une campagne dans un État, une campagne locale, c'est du moins une élection locale, mais il est venu avec une stratégie nationale en se disant que s'il nationalisait en disant qu'au fond, c'est lui contre un représentant de Donald Trump, cela ferait peur, fera suffisamment peur aux habitants de Virginie. Mais malheureusement, cette stratégie n'a pas marché parce que, au fond, son adversaire n'était pas tant que ça un Trumpiste. Son adversaire a été suffisamment intelligent pour rester à distance de Trump. Sans pour autant s'aliéner la base de Trump, mais il est resté suffisamment à distance de Trump. Donc, cette stratégie de dire que toute bataille électorale contre un républicain est une bataille électorale contre Trump, cette stratégie, de toute évidence, à mon avis, John, n'a pas marché.
Dennis Beaver, qu'est-ce qui, selon vous, a fait gagner donc Glenn Youngkin et, à votre avis, pourquoi les démocrates ont perdu cet État de Virginie?
Tu sais, les Américains se fâchent.
on a ras-le-bol. On veut voir quelque chose qui se passe, mais on est fatigué hein, maintenant. Trop de propagande. Les hommes politiques ne font rien. A priori, on n'est pas heureux, on n'est pas content avec, disons, le sens, direction où on va. Donc, à mon avis, voilà pourquoi tu vois ces changements. On veut avoir quelqu'un compétent qui, avec un peu de chance, va faire quelque chose pour le peuple. C'est pas compliqué, pas du tout.
Bakary Tandja, vous vivez à New York, la moisson semble avoir été abondante pour les démocrates. Eric Adams, le prochain maire de New York, est un démocrate. Et tout à côté, dans le New Jersey, Phil Murphy a sauvé la mise de justesse. Comment ces victoires ont-elles été accueillies là-bas?
Donc, merci John. Cette victoire a été accueillie avec dans une très grande joie. Personnellement, je suis satisfait. J'ai voté pour Eric Adams, que j'ai eu à connaître depuis 1999. C'était à la suite du meurtre de Amadou Diallo par la police. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a de l'expérience pratique pour avoir été lui-même victime de la brutalité policière et ensuite il est devenu policier lui-même. En tant que sénateur, il a de l'expérience sur le plan législatif et en tant que président du borough de Brooklyn, il a aussi gagné en expérience sur le plan exécutif. Donc c'est un homme intègre sur lequel nous pouvons compter pour répondre aux multiples challenges de New York qu'on appelle Big Apple.
Un mot sur Phil Murphy qui a sauvé la mise, on le disait, dans le New Jersey comme gouverneur.
Oui, le cas de Phil Murphy également, ça a été une très grande satisfaction parce que c'est un gouverneur qui est progressiste, qui s'est vraiment battu pour défendre en tout cas la situation pendant le COVID à New Jersey et tous les grands problèmes tels que les questions de l'abortion. D'ailleurs, il a l'intention de codifier une loi pour protéger l'abortion. L'avortement. Bon, et il est également contre, en tout cas, il est en train de prendre des mesures également bon, pour limiter l'usage des armes à feu. Bon, d'ailleurs, dans ce contexte-là, d'ailleurs, le président du Sénat, qui est son principal adversaire, vient de perdre. Selon les analystes, ceci va ouvrir le chemin pour lui pour faire passer cette législation importante qui lui tient à cœur.
Soulignons, et on le disait en début de mission, qu'à Boston, la capitale de l'État du Massachusetts, la démocrate Michelle Wu, 36 ans et fille d'immigrés taïwanais, a été élue maire. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a également été réélu à son poste. Il a promis mercredi de concentrer son attention sur la sécurité publique, l'inclusion économique et le logement abordable. René Leck, attardons-nous sur le cas de New York. Eric Adams deviendra donc le 1er janvier 2022 le deuxième maire noir de cette ville. Il va gérer un budget d'un peu plus de 98 milliards de dollars. C'est énorme. Ce budget en dit long sur l'importance de cette ville. Quels seront, selon vous, ses principaux défis, René?
Écoutez, lui, il a dit lui-même, bien entendu, la relance économique, le contrôle du virus et de sa propagation, et également, et ça, il a beaucoup insisté, lié à son propre background, la question de la sécurité. puisque comme vous le savez, John, de plus en plus, des questions de sécurité se posent ici aux États-Unis, en particulier dans les grandes villes, y compris dans une grande ville comme New York. Lui, en tant qu'ancien policier, c'est une question sur laquelle il considère avoir une expertise particulière et une philosophie et qui, pense-t-il, va permettre d'obtenir des progrès importants en matière de sécurité.
Dennis Beaver, New York, c'est aussi la ville qui a vu grandir Donald Trump. C'est également de là qu'il avait déclaré sa candidature à la présidence. L'ombre de Trump plane toujours dans la politique ici aux États-Unis. Quel est son poids réel aujourd'hui, notamment chez les républicains? Est-ce qu'il est possible qu'il soit le candidat républicain à la présidentielle de 2024?
Je ne pense pas. Je ne crois pas. On a ras-le-marre avec Trump. On commence à voir même les gens qui sont tout assez à droite. Commence à comprendre que Trump, c'est le Hitler américain, un mec dangereux, oh là là, ce qu'il a fait, hein. Il a perdu l'élection, il ne voulait pas l'admettre, au contraire. Il paraît que son image et son importance diminuent vachement, vachement.
Bakary Tandias, vous vivez à New York. Est-ce qu'il est toujours populaire à New York, Donald Trump, ou pas?
Il n'a jamais été populaire à New York, donc il n'a aucune chance de percer ici ou d'avoir des sympathisants. Comme l'intervenant précédent vient de le dire, Trump est moralement disqualifié à diriger de nouveau ce pays. Et ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, le fait de créer des conditions qui allaient amener le pays à la guerre civile, c'est impensable. Bon, d'ailleurs, le pays continue à souffrir des ramifications de cette situation. Je pense qu'il est préférable qu'il reste dans l'ombre.
René Lec, est-ce que la victoire plutôt de Yong King en Virginie donc, ne va pas galvaniser les autres républicains qui hésitaient peut-être encore à se présenter à tous les niveaux lors des prochaines élections, que ce soit les mi-mandats ou même la présidentielle? Est-ce que le deuxième mandat de Joe Biden est menacé selon vous?
Je ne sais pas si son deuxième mandat est menacé, mais ce qui est certainement menacé, c'est la courte majorité démocrate pour les élections de mi-term, de mi-mandat, qui vont avoir lieu dans exactement un an. Et effectivement, cette victoire de Yong King va certainement galvaniser les républicains. Mais vous savez, la situation en Virginie, elle est relativement différente dans ce qui peut se passer dans les autres États où les républicains peuvent gagner des sièges importants. Parce qu'en Virginie, ils n'ont pas fait de primaire classique. Donc, comme ils n'ont pas eu des primaires classiques comme ça se fait en général chez les républicains, un modéré, parce qu'il est relativement modéré, Yong King, a pu passer. Alors que s'il y avait des primaires avec la base des républicains, qui est une base aujourd'hui contrôlée par Donald Trump, il n'aurait eu aucune chance de passer. Et s'il n'était pas... Si dans les autres États, ils élisent des extrémistes pro-Trump, ils risquent de ne pas pouvoir passer dans une élection plus généralisée. Donc la situation de Virginie, elle est quand même relativement spéciale. Mais il est incontestable que cette défaite-là des démocrates en Virginie n'est pas un bon augure pour l'avenir.
Denis Beaver, je vous pose la même question. Est-ce que la victoire de Yong King va galvaniser le camp républicain au plan national et dans tous les secteurs?
Ça va rendre les républicains beaucoup plus forts et je prévois une victoire assez importante dans l'avenir.
Bakary Tandia, d'importants dossiers de Joe Biden restent toujours bloqués au Congrès. Les infrastructures, la réforme aussi bien de la police que de l'immigration. Quelles sont les chances de voir aboutir tous ces dossiers ou tout au moins certains d'entre eux avant la fin de son terme?
Pour le moment, ce que nous observons au niveau du Congrès, particulièrement au niveau du Sénat, est vraiment problématique. La marge que les démocrates ont au niveau du Sénat est presque est extrêmement fine. Donc, d'ailleurs, avant de commencer cette émission, nous avons eu à en discuter. Les deux sénateurs, par exemple, qui ont un pouvoir extraordinaire, qui ont pratiquement pris en otage tout le programme de Joe Biden. Donc, ça, c'est un problème réel. Et pour le moment, on ne peut pas, avec d'une manière catégorique, nous ne pouvons pas dire dans quelle direction ces deux sénateurs vont aller. Donc, le sort de ce paquet qui est en considération au niveau du Sénat, en tout cas, dépend de la volonté de ces deux sénateurs, ce qui est réellement problématique. Et c'est pourquoi, en tout cas, l'avenir, il serait très, très important qu'ils essaient d'améliorer leur majorité au niveau du Sénat, ce qui n'est pas évident. Donc, il y a un grand point d'interrogation.
René Lec, pour ceux de nos auditeurs qui nous suivent sur le continent et qui comprennent difficilement la politique américaine et comment elle fonctionne, comment expliquer qu'au Congrès, les démocrates sont majoritaires à la Chambre? Ils ont 50% au Sénat, mais jusque-là, ils peuvent même avoir 51 voix avec celle de la vice-présidente. Mais jusque-là, on a l'impression que ça ne bouge pas dans l'agenda de Joe Biden. Pourquoi?
Oui, écoutez, John, le problème, c'est que la plupart des lois, pour pouvoir être adoptées par le Sénat, il faut qu'il y ait 60% des sénateurs qui la votent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le filibuster qui permet à un seul sénateur de dire « Écoutez, je ne veux même pas qu'on discute de cette loi, je ne veux pas que cette loi soit amenée pour un vote au niveau de la, du Sénat, je m'y oppose. » Et pour pouvoir, si vous voulez, faire fi du veto de ce sénateur, il faut 60 voix. Donc le problème, c'est que si vous n'avez pas 60 sénateurs sur les 100, il est très très difficile de faire passer un certain type de loi. Et c'est le problème auquel est confronté aujourd'hui l'agenda de Joe Biden. Parce que pour la plupart des lois en question, comme les démocrates n'ont que 50 voix, 50 sénateurs sur les 100, ils n'arrivent pas à obtenir le vote des lois qu'ils souhaitent. Donc, la seule manière qui pourrait leur permettre de régler ce problème, ce serait de supprimer, ne serait-ce que temporairement, ce qu'on appelle le filibuster, qui donne ce droit de veto à un ou plus, au plus d'un sénateur.
Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable?
Écoutez, c'est en discussion. Il se trouve que chez les démocrates, il y a deux démocrates, notamment un en particulier, Joe Manchin, de la Virginie de l'Ouest, qui s'y oppose. Il considère que ce qu'on appelle le filibuster, cette question du droit de veto d'un seul sénateur, est une question importante pour préserver le droit des minorités, de la minorité politique au sein du Sénat. C'est à ça qu'il fait allusion, pas du tout aux minorités sociales comme on l'entend généralement. Donc, de ce point de vue-là, si Joe Manchin lui-même est un démocrate, n'est pas partant, il est difficile d'envisager un changement.
Juste ce que je voulais ajouter, Léonel, vous avez tout à fait raison. Bon, compte tenu du fait que c'est 50-50, bon, même si on supprimait le filibuster, ça ne va pas régler le problème. Bon, si Joe Manchin et sénatrice Seaman, bon, ne supportent pas l'idée. Donc, c'est un problème réel.
Denise Beaver, comment, du côté républicain, vous voyez toute cette atmosphère qui se passe dans le camp démocrate? Comment vous vivez cela?
Ça nous encourage. Oui, c'est très encourageant que les Américains, le peuple américain, au lieu de dormir, maintenant, on se réveille et on dit... Ça y est, ça suffit, ras-le-bol, il faut que ça change. Et moi, je suis très heureux de voir tout ça.
René, je vais revenir vers vous. Mettons-nous dans la situation, justement, de Joe Biden. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour faire avancer ces dossiers?
Ah, écoutez, il y a deux questions. Bon, les dossiers techniques, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, notamment ces deux projets de loi sur l'infrastructure, infrastructure réelle, matérielle, et infrastructure humaine, infrastructure sociale, selon les termes que l'on choisit. Pour les faire avancer, il faut d'abord qu'ils trouvent le compromis. Le compromis aujourd'hui, il est difficile à trouver parce qu'il y a ces deux sénateurs, Joe Manchin, on en a parlé, et Sinema, qui s'y opposent. Mais il semblerait que, en tout cas, le cadre général d'un accord, le cadre général de la loi, ils ont trouvé un accord sur cela, donc il est possible que cela se fasse rapidement. On parle même, certains disent que ça pourrait même se faire d'ici la fin de cette semaine, quoi, c'est-à-dire littéralement entre aujourd'hui et demain. J'en doute un peu, mais bon, espérons pour les démocrates, en tout cas, pour sauver l'agenda de Biden, que cela se fasse dans le courant de la semaine prochaine. Je vous rappelle, John, que Biden avait tout fait pour que ces deux projets de loi soient votés avant qu'ils n'aillent à la COP26. Et comme vous le savez, cela ne s'est pas fait.
Et cela ne s'est pas fait. Bakary Tandia, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'agenda de Biden et dans la perspective des prochaines élections, que doit faire le camp démocrate?
Le camp démocrate doit continuer à s'organiser. Tout d'abord, à ne pas considérer les élections, ne jamais considérer les élections comme acquises et d'avance. Et également essayer d'articuler d'une manière convaincante leur agenda. Bon, et aussi par rapport, en tout cas, par rapport à Trump. Bon, parce que jusque-là, bon, la plupart du temps, ils semblent utiliser Trump comme leur argument de taille. Bon, chaque fois qu'ils font face à un républicain. Bon, je crois qu'ils doivent vraiment essayer de trouver de la substance réelle pour faire avancer leur dossier. Bon, la législation qui est en cours actuellement, elle est très intéressante au niveau des infrastructures humaines et autres. Donc, il faut pouvoir expliquer ça pour convaincre la majorité des Américains pour qu'ils puissent en tout cas bénéficier de leur soutien.
Donald Trump s'est un peu tu ces derniers mois avec la suspension de ses comptes Facebook et Twitter, mais il est en train de lancer son propre réseau social. S'il revenait dans les réseaux sociaux, est-ce que ça ne va pas changer l'environnement politique et républicain?
Ça peut changer, mais très peu, puisque ces enquêtes à Washington qui révèlent tout ce qu'il a fait hein, pour complètement vraiment foutre le pays en l'air, à mon avis, c'est l'embarras énorme. Donc, j'espère qu'on va pas voir grand-chose sortir de ce qu'il est en train de faire.
Voilà, on va faire un dernier tour de table en un mot pour le mot de la fin. On commence par vous, René Lex, sur les élections aux États-Unis.
Oui, écoutez, ça va être intéressant de voir comment les midterms vont se passer, voir si les démocrates vont réajuster leur stratégie, qu'ils ne soient pas sur des élections locales une stratégie basée sur l'adversaire Trump, mais une stratégie basée sur les questions locales.
Bakary Tandia, le mot de la fin en quelques secondes.
En quelques secondes, nous sommes très ravis avec l'élection de Eric Adams. Il est compétent, il a toutes les qualités pour assumer son mandat avec succès. Bon, avant de conclure, je voudrais mentionner le nom d'une jeune dame très active au niveau de la communauté, Cordell Claire, qui a gagné le siège de Brian Benjamin, qui est devenu gouverneur adjoint. C'est une dame qui a fait un travail extraordinaire au niveau de la communauté africaine. Pendant 30 ans, elle assiste les immigrants africains. Donc maintenant, nous pouvons considérer que la communauté africaine a une voix au niveau du Sénat à Albany, une voix sur laquelle ils peuvent compter.
Et Denise Bivin, votre mot de la fin?
Je suis très encouragé par tout ce qui se passe. Et notre pays, tu sais que Je suis 100% américain toute ma vie en Californie. Je suis très heureux de voir l'Amérique vraiment de retour.
Voilà. Et c'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Lydon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24h sur 24. Au revoir.